c'est parce que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
La croissance démographique a des effets néfastes sur l'environnement, en tout cas d'après nos sources, et les pays en développement sont le plus touchés par ces phénomènes. Par exemple, le nombre de la population augmente plus vite que la production vivrière et la pénurie suscite souvent des pratiques agricoles néfastes sur l'environnement. Comment bien gérer cette situation? Notre invité Nicolas Choukou est avec nous dans ce studio, les consultants en environnement, pour aborder cette question. Nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé. Appelez dès maintenant au 081 890 63 94. Il y a également le numéro SMS, c'est le 081 711 5001, et évidemment la page Facebook au Capi Service sur laquelle vous pouvez bien réagir. Alors professeur, les effets néfastes, les effets de la croissance démographique sur l'environnement, est-ce que si vous pouvez d'abord nous aider à comprendre ce qu'on entend par une croissance démographique. Et ensuite, on verra comment cela peut avoir des effets sur l'environnement.
Merci de m'avoir accordé la parole. Et je vais commencer par définir ce qu'est une croissance démographique. Et comme les mots l'indiquent, une croissance, c'est une augmentation. Une augmentation, la croissance démographique, ici, il s'agit ici d'une certaine augmentation de la population. Il s'agit de la population humaine. Parce que quand on parle de la population, on sous-entend la population des êtres vivants. Mais ici, je vais vraiment accentuer le fait sur la population humaine. En fait, une croissance démographique, c'est aussi une fluctuation de la démographie sur une période donnée. Et pour qu'il y ait croissance démographique, il y a deux éléments importants qui entrent en ligne de compte. Il s'agit des mouvements de la croissance naturelle et les mouvements de la migration. Et quand je parle de la croissance naturelle, je fais allusion au taux de natalité, en fait de naissance, et au taux de mortalité, et qui est en fait de décès, et il y a le taux d'accroissement naturel, qui est en fait la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Mais il se fait que aujourd'hui et actuellement dans le monde, la croissance naturelle, qui est en fait la différence entre les différents taux, fait qu'il y a augmentation des taux de natalité qu'au taux de mortalité, parce que le taux de mortalité est en train de diminuer compte tenu de certains facteurs que la médecine est en train de découvrir pour diminuer la mortalité. Mais dans les pays développés, le taux de natalité est faible, parce que une famille peut avoir un à deux enfants, mais par contre dans les pays sous-développés, le taux de natalité augmente, et on peut trouver encore des familles de 5 à 10 personnes. J'ai parlé de facteurs. Là, je me suis axé sur le facteur naturel.
La croissance naturelle, et maintenant, vous avez l'autre facteur, c'était la croissance des migrations.
Oui, migratoire, la migration. Oui. Et il y a trois éléments qui entrent en ligne de compte quand on parle de la migration. Il s'agit de l'émigration, de l'immigration et de l'exode rural. Quand on parle de migration, c'est le fait que quelqu'un quitte son pays, il va dans un autre pays. Mais le fait d'arriver dans le pays qui n'est pas le vôtre, vous faites l'immigration. Mais le fait de quitter votre pays, vous faites ce qu'on appelle l'émigration. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'exode rural. Les trois sont les déplacements. L'exode rural, c'est le fait que les gens quittent la campagne vers la ville. Et dans les pays du tiers-monde, nous constatons que le taux de l'exode rural est de loin supérieure. Et quand nous parlons de la République démocratique du Congo, nous voyons que dans les villes, il y a plusieurs populations qui quittent les villages vers la ville à la recherche de confort. Et le taux de mortalité, de migration est très élevé. Mais néanmoins, il y a quelques chiffres que nous avons soulevés. Et dans le monde, en 2011, la population a été de 7 milliards. Et aujourd'hui, nous pensons vers les années 2000, 2020, le monde peut atteindre 9,3 milliards suite au taux naturel. Mais en Afrique, l'Afrique qui avait 1 milliard en 2011 a tendance à atteindre 3,6 milliards en 2100. Et comme j'avais dit, c'est le moteur de cette dynamique, c'est la fécondité et la natalité. Mais si j'ai regardé un peu la République démocratique du Congo, quand j'ai fait mes recherches, j'ai constaté que il y a une enquête importante que le ministère des Plans a réalisée. Ils disent qu'en 1958, la population congolaise a augmenté de 13,5 millions, tandis qu'en 70, cette population a quitté de 13, ça a doublé presque à 21,6 millions. Mais en 1984, la population a augmenté de 30,6 millions. C'est le recensement scientifique qu'on a trouvé en République démocratique du Congo. Depuis 1984, à nos jours, il n'y a jamais eu de recensement. Tous les chiffres que le gouvernement avance, que les scientifiques avancent, je parle avec 100% d'être contredit, ce ne sont que des projections. Ce ne sont que des projections de l'INES, le Site national des statistiques.
Oui, mais le professeur, là, vous venez de nous poser un tableau sur cette croissance démographique. Même, vous en avez parlé, même sur le plan mondial. Alors, puisque vous avez dit qu'il y a la croissance naturelle, vous avez parlé des naissances, mais également la croissance des migrations qui est liée au flux migratoire, et surtout, dans les cas des pays en développement, dans les cas de la RDC, il y a l'exode rural. Alors, sur l'environnement, à quel moment cette croissance peut avoir vraiment des effets néfastes sur l'environnement? C'est à quel moment?
Ouais, j'en arrive. Ouais. Alors, pour que je voulais faire cette corrélation entre l'augmentation de la population et l'environnement. Et ici, quand je parle de l'environnement, il s'agit des cadres de vie. Il s'agit du milieu où vit les populations. Il s'agit des biotopes. Mais il faut toujours savoir, chaque fois que la population augmente, il y a un effet sur l'environnement. Parce que quand il y a, je donne les chiffres, ça veut dire que cette population qui augmente, elle a des besoins, et les besoins pour la survie, les besoins des plans énergétiques, les besoins pour s'habiller, les besoins industriels, et surtout qu'en République démocratique, on parle de la révolution des modernités, ça veut dire que ce sont des besoins. Tous ces besoins, ça se trouve dans l'environnement, et ça engendre des conséquences. Et pour satisfaire ces besoins, la population doit utiliser que les éléments de la nature. Alors, par exemple, pour cuisiner, ici, le premier besoin, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Alors, dans le milieu urbain, on peut utiliser l'hydroélectricité, mais comme vous le savez, nous sommes dans un pays où le taux de délestage évolue, et puis le taux d'électrification aussi entre 6 à 8%, le taux le plus faible qui puisse exister dans le monde, malgré le grand barrage que nous avons, et déjà la construction des barrages lui-même a commencé à engendrer des conséquences sur les milieux où se trouvent posés et ces barrages. On a sapé les cours d'eau, on a fait des bétonnages, et il y a certaines conséquences, c'est la dégradation des écosystèmes. Aujourd'hui, on trouve les phénomènes des digues, quand l'eau, le fleuve amène, charrie les matériaux, ça s'accumule là où on a fait des barrages. Et il y a développement des bassins de rétention, et sur les bassins de rétention, il y a prolifération des maringouins, et les maringouins peuvent
la liste est longue.
Peut piquer les hommes, et ça engendre de la maladie. Et il y a un autre besoin. Comme l'électrification est faible, la population congolaise utilise pour l'énergie le bois énergie et le charbon des bois et le bois de chauffage. En fait, ils coupent le bois et sa norme urbanistique, ils vont faire les mêles traditionnels pour carboniser, et d'ailleurs en faisant le mêle, ils sont en train de trouer et de faire des trous dans le sol, et quand il pleut, il peut toujours avoir des flaques d'eau, et là on a coupé la végétation ou l'arbre tombe sur les autres arbres, il dégrade l'écosystème.
Alors professeur, est-ce qu'il y a moyen de gérer tout cela. Prenons par exemple le cas de l'exploitation du bois. Hein, vous l'avez dit, hein, lorsque les gens ont besoin de braise, hein, ou communément appelé makala, pour des besoins de nourriture pour préparer. Et lorsqu'il y a une grande masse de la population qui vit à un endroit, donc c'est-à-dire il aura pression sur les forêts parce qu'ils ont besoin de ce bois. Mais commençons par ça. Comment on peut bien gérer?
Mais pour bien gérer, il appartient au ministère, au gouvernement congolais de mettre sur pied l'utilisation ou la consommation des énergies renouvelables. Nous savons que la République démocratique du Congo est un pays, j'ai toujours dit, béni, où on trouve différentes sources qui peuvent donner de l'énergie. Nous avons les rayons solaires qui peuvent nous donner l'électricité à base de photovoltaïque. Nous avons le vent à l'est qui peut nous faire tourner les éoliennes. Et il faut en fait faire l'usage de ces énergies renouvelables, et il faut redynamiser les centrales thermiques et les centrales, les barrages hydroélectriques, j'allais dire, pas thermiques. Et Inga, il est vraiment d'illusion de croire que Inga peut donner l'électricité dans toute la RDC. Nous sommes dans un pays à beaucoup de cours d'eau, on peut jeter d'autres micro-centrales, des pico-centrales, pourquoi pas, et là il y aura réduction de la pression sur les écosystèmes forestiers. Tant que le gouvernement n'a pas fait ça, tant que les opérateurs économiques n'ont pas fait, ça veut dire que la population qui n'a que les ressources naturelles bois ne fera que couper le bois. Ça, c'est un. De deux, il faut que...
Mais par rapport au barrage, ça n'aura pas des effets sur le cours d'eau? Parce que déjà, lorsque vous avez évoqué les cas du grand barrage d'Inga qui n'était pas sans conséquence sur le cours d'eau. Mais quand on parle des autres barrages...
Il faut tenir compte que dans notre pays, quand on met des infrastructures, on ne fait pas les études. Pour mettre un barrage, une centrale, il faut qu'il y ait des études environnementales, les études économiques, les études de faisabilité. Tout ça, on le fait, mais est-ce qu'on tient compte des études environnementales? Si vous voyez qu'il y a des conséquences, il faut chercher des moyens pour les atténuer, en fait, d'évoluer. En fait, si, parce que une centrale qui est jetée dans un cours d'eau, et où on va atténuer les conséquences, a une grande importance parce que ça va engendrer l'économie, que d'utiliser le charbon des bois, les bois de chauffage qui en fait dégradent considérablement la forêt et qui peut engendrer la dégradation des modifications climatiques, et en fait la niche écologique est touchée, la chaîne trophique est abîmée, et il y a un cas de mort d'homme. Qu'est-ce qui est important?
Voilà, comment gérer les effets de la croissance démographique sur l'environnement? Nous en parlons avec le professeur Nicolas Choukou, qui est consultant ou expert en environnement. Si vous êtes intéressé par ce sujet, nous rappelons le numéro des contacts. Appelez au 081 890 63 94.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des Champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Nous avons un premier auditeur en ligne, il nous appelle de Bukavu dans le sud Kivu, il s'agit d'Arsène Moulangou. Bonjour Arsène. Arsène, bonjour.
Hello, bonjour.
Voilà, vous êtes en ligne. Allez-y, Arsène. Quelle est votre question sur ce sujet? Comment gérer les effets de la croissance démographique sur l'environnement?
Bon, en fait, je demande à notre invité, qu'il spécifie d'abord, parce que, moi, je sens d'abord les sujets vraiment, c'est comme si le sujet n'est pas clair. Parce que,
oui.
Il n'avait pas spécifié les cas pour les problèmes urbains. Et il n'avait pas spécifié pour les cas ruraux, hein, parce que les problèmes urbains ne pouvaient pas être de la même manière que les problèmes ruraux, parce que nous savons quand il y a les flux migratoires et sur la ville, il y a autant de problèmes, ça peut être les accidents, ça peut être aussi le chômage, ça peut être aussi les conflits ethniques, ça peut être aussi soit la famine. Bon, au niveau des villages, bon, je ne sais pas si ça pouvait être de la même manière. Ça, c'est mon premier constat. Bon, ce que je demande à notre invité aussi, au cas où le pays est riche, bon, par exemple, aujourd'hui, nous voyons la Chine, bon, il y a autant de l'emploi qui s'effectue, mais la politique chinoise qui sont éparpillées presque dans le monde entier. Au moment où, bon, en Afrique, nous avons des pays, bon, avec trop de populations qui sont beaucoup, par exemple, le cas des Nigériens, bon, il y a autant de populations, bon, mais il n'y a pas assez de développement. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Est-ce que c'est l'intelligence, bon, ou bien la paresse? C'est ça mon constat que je voulais demander à notre invité. Donc, en tout cas, merci pour ces questions-là.
Merci Arsène Moulangou, merci d'avoir appelé de Bukavu dans le Sud Kivu. On revient à vous, professeur Nicolas Chouk. Vous avez suivi Arsène et il voulait en voir un peu, c'est-à-dire si vous voulez bien l'éclaircir par rapport à la croissance démographique, parce que d'après lui, si il faut parler de la croissance au niveau urbain, c'est-à-dire dans les villes, peut-être qu'il avait souhaité qu'on dise qu'est-ce qui se passe du côté du milieu rural, comment ça se passe. Est-ce qu'on peut parler aussi de croissance démographique en milieu rural?
Oui, il y a croissance démographique tant en milieu rural qu'en milieu urbain.
Et les effets sont le même tant bien au milieu urbain que rural.
J'en arrive, parce que c'est ce que je voulais répondre à sa question, oui. Parce que pour qu'il y ait croissance démographique, il faut qu'il y ait naissance. Et dans les villages, on trouve des dames qui mettent au monde, et surtout et ces dames mettent au monde et ils n'espacent même pas leur natalité, et c'est ce qui fait que les gens du village, par manque de soins, par manque de confort, ils se déplacent dans la ville. Est-ce que il y a des problèmes de la démographie sur l'environnement dans les villages? Oui. Et d'ailleurs, quand dans les milieux villageois, si je vais prendre à l'est du pays, le village, on utilise l'élevage. Et dans les élevages, il y a le surpâturage. Le surpâturage a des effets sur les herbes. Parce que pour engraisser les animaux, vous devez utiliser les herbes. Et ces herbes et ces animaux qui engendrent le surpâturage, ils peuvent aussi laisser des rigoles. Quand il pleut sur une pente, il y a le ravinement. Il y a les érosions, il y a les éboulements. C'est aussi un aspect important qu'il faut en tenir compte. Et il compare la Chine. Pourquoi beaucoup de Chinois, ils sont nombreux, c'est un pays développé, et on trouve des Chinois qui se retrouvent dans différents pays du monde. Ce n'est que normal parce que les Chinois, les Chinois est l'une des populations la plus nombreuse dans la planète. Et d'ailleurs, il y a une loi en Chine où il faut considérablement limiter les naissances. Et en Chine, les familles qui n'ont pas de naissance sont encouragées. Et par contre, les Chinois, pour vivre, pour se mettre en équilibre, il est normal qu'on les déplace vers les pays où il y a qu'ils se déplacent vers les pays où il n'y a pas beaucoup de gens par rapport à eux. Et ils cherchent. Quand vous voyez les Chinois, partout ils sont, même dans les villages, ils travaillent, ils cultivent, ils peuvent même faire des beignets, pourvu qu'il se sent plus à l'aise à l'étranger que là où il est, parce que là, il y a une forte concentration humaine. Et il pose la question de savoir pourquoi, comme les pays comme le Nigeria, il faut lui parler seulement des pays comme la RDC. Est-ce que les gens ne se développent pas? C'est l'intelligence ou c'est le manque d'intelligence? Non. Les Congolais, les Africains sont intelligents. Il est seulement problème de la conscience. Il est seulement problème de savoir que là où vous êtes, si vous détruisez, vous êtes en train de siéger sur votre propre siège et que vous pouvez vous retrouver malade, vous pouvez même mourir un jour. L'intelligence est là, parce que l'intelligence est l'art aussi de s'adapter à une situation donnée. Il faut savoir s'adapter en utilisant les normes écologiques et les normes urbanistiques.
On va poursuivre avec vous et surtout et nous aider à comprendre également davantage, parce que lorsque je reviens sur ce que vous avez dit en début de l'émission sur les deux facteurs, enfin sur la croissance naturelle, c'est-à-dire liée à la natalité, sur naissance, c'est ce que vous avez d'ailleurs souligné pour ce qui est de la croissance démographique dans les villages. On va chercher à comprendre un peu davantage par rapport à ça, surtout sur les côtés gestion, comment au niveau de village on peut bien gérer ça. Vous avez même cité les surpâturages lorsqu'il y a une croissance démographique dans les villages, et puis vous avez parlé également de la croissance des migrations, et qu'est-ce que l'année des conflits armés qui engendre des fois aussi des déplacements massifs des populations qui se retrouvent dans un coin comme ça. Vous étiez dans un coin à 10 000 habitants, vous retrouvez à 20 000, 30 000. Donc vous allez revenir par rapport à tout cela sur le temps pour nous d'abord d'accueillir des auditeurs qui sont en ligne. Omar Kigalo qui nous appelle de Kinshasa et Félix Kawaya qui est à Kalemi au Katanga. Omar Kigalo, bonjour.
Bon bal et bon début de week-end à tout le monde.
On vous écoute, Omar.
Merci beaucoup, Marcel. J'ai trois petites préoccupations. La première, j'ai entendu l'invité, quoique je l'ai écrit en cours, dire qu'il y a différence entre recensement scientifique et recensement administratif. Je voudrais, s'il y a lieu, qu'il me dise la différence qui en existe. Et parmi les deux recensements, qu'est-ce que compte le plus? Donc, qu'est-ce qu'on doit plus tenir compte? Deuxième question. Je n'ai pas suivi l'émission dès le début, mais je voudrais, s'il s'est déjà étalé là-dessus, quelles sont les conséquences de la croissance démographique sur le plan d'un pays ou de l'environnement. S'il va se réduire, je ne sais pas, mais je n'avais pas suivi quand il commençait à le dire. Et troisième et dernière question, j'ai lu un sociologue français qui disait que ce qui constitue la cause principale de la croissance démographique dans le pays africain, c'est la pauvreté. Il donne un cas, les Africains manquent des objets de distraction, ils n'ont pas de piscine, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de courant, et la seule distraction pour eux, c'est d'avoir des enfants. Peut-il infirmer ou confirmer cette assertion? Voilà mes préoccupations, je vous remercie, monsieur Marcel.
Merci à vous aussi, Omar Kigal, nous avoir appelé de Kinshasa, et bon début de semaine à vous. Félix Kawaya, vous êtes à Kalemi au Katanga, bonjour Félix.
Bonjour Radio Kapi, c'est Félix, bien sûr, de Kalemi dans les Tanganyika.
On vous écoute, Félix.
Je commence d'abord à remercier le professeur qui est en ligne. Je pense qu'il a assez de matière sur ce domaine. Mais au moins, moi, j'aimerais lui demander une petite question. La première, c'est par rapport à la politique nationale de notre pays en matière de la croissance démographique. Est-ce que lui qui est mieux, quelle est la politique nationale de notre pays en matière de la croissance démographique? Parce que nous constatons ici chez nous à Kalemi, il y a moins une adéquation entre la population et les poussées démographiques. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui apparaissent dans le monde, mais qui ne correspondent pas aux infrastructures. Est-ce que au niveau national, il y a au moins une politique comme ça qui est prévue pour que qui ait au moins cette équité, au moins, je dis, cette équité en matière des poussées démographiques et les normes environnementales? Ça, c'est la première question. Et la dernière question, j'aimerais savoir, est-ce que il y a au moins une cellule au niveau du gouvernement qui coordonne au moins toutes les entrées et les sorties? Parce que moi, je constate que ce domaine, il est juste laissé dans les ONG et les Nations Unies avec les fonds des Nations Unies pour la population. Mais au moins, au niveau du pays, on ne ressent rien. Alors, je ne sais pas s'il y a au moins des cellules, à part les fonds des populations qui est chargé de ça. Merci beaucoup.
Merci, Félix Kawaya. Merci de nous avoir appelé de Kalemi dans la province du Katanga. On revient à vous, professeur Nicolas Choukou, avec qui nous parlons de comment gérer les effets de la croissance démographique sur l'environnement. Mais avant de répondre à Omar Kigalo et aussi à Félix Kawaya, si vous pouvez revenir sur, lorsque vous avez parlé des croissances en milieu rural, qui est généralement lié à la croissance naturelle, c'est-à-dire, vous avez dit, quand on parle de la croissance naturelle, il s'agit de la croissance liée à la natalité, c'est-à-dire à la naissance. Et vous avez parlé du surpâturage. Dites, professeur, est-ce qu'il y a moyen de gérer cela un peu plus facilement que les poussées démographiques liées, par exemple, au conflit armé ou bien à l'exode rural?
Ok. Ça, c'est un terme, c'est une notion un peu complexe. Mais comme vous l'aurez à le remarquer, quand il y a déplacement de la population, il y a toujours la pression sur les éléments de l'environnement. Soit c'est le sol où il y a le ravinement, soit c'est la forêt parce qu'on doit les couper, soit c'est le bois énergie, parce qu'ils vont se chauffer ou cuisiner, ou soit ils vont faire la chasse, parce qu'ils doivent manger, les faire des braconnages. C'est toujours les écosystèmes, dans la nature, dans l'environnement. Et quand il y a déplacement, nous avons vu dans notre pays, les gens qui se déplaçaient à milliers, et les gens qui se mettaient dans des camps, et il y a des conséquences. Mais la gestion pour le conflit armé, cas de déplacement, j'ai toujours conseillé aux belligérants qui sont en conflit, que ça soit du point de vue des gens qui sont en rébellion, comme du point de vue gouvernemental, dans l'armée royaliste, c'est arrêter la guerre. Parce que la guerre n'est pas bonne, ça c'est le premier élément. Puisqu'il y a la guerre, il y a mort d'homme. Personne ne peut quantifier la valeur d'une personne qu'on est en train de tuer. Ok? Mais les conflits armés, il faut bien les gérer. C'est parce qu'il y a aussi les instruments juridiques internationaux des conflits armés. Quand les belligérants sont en conflit, ils ne doivent pas détruire les éléments des écosystèmes. Et ces les belligérants qui sont en conflit doivent être éduqués ou formés sur les instruments juridiques internationaux qui ne peuvent pas ça. J'ai toujours dit, quelqu'un qui est en conflit armé, pourquoi il va abattre un éléphant et le laisser? Qu'est-ce que les singes ont fait dans sa guerre? Qu'est-ce que les antilopes ont fait dans leur pouvoir? Donc, il faut arrêter ou il faut suivre les normes. Il y a les normes. Que les pays ou les gens qui sont en conflit, que ce soit en RDC ou dans n'importe quel pays, ils doivent les suivre.
Voilà. Donc, on y va maintenant avec les autres questions qui ont suivi, avec Omar Kigalo qui
a... Il parle du recensement. Il parle de recensement administratif et le recensement scientifique. Il s'agit de recensement pour savoir comment quantifier les différentes personnes, les nombres réels des personnes qu'on peut trouver dans notre pays ou dans un territoire ou dans un milieu donné. Un recensement, il est dit administratif. Si c'est l'administration qui diligente le recensement, le ministère de l'Intérieur qui a la population ici peut dire à partir d'aujourd'hui, je vais diligenter les enquêtes pour faire le recensement. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer les élections présidentielles dans notre pays et nous avons la CENI, je pense, ils peuvent faire le recensement. C'est le recensement dont les éléments, dont le résultat, c'est pour l'administration. Et les recensements scientifiques, c'est dans les buts scientifiques, les buts de recherche. Nous savons que c'est quoi les recherches scientifiques et tout ça. Du point de vue, les conséquences sur le plan démographique, les conséquences environnementales de la démographie, il y a plusieurs conséquences. Il y a les problèmes de la famine, parce que les gens qui sont nombreux sur cette terre, et il y a les problèmes de sélection naturelle, ceux qui n'ont pas de moyens doivent vivre dans la famine, ils doivent avoir la pression pour faire les cultures, ça se joue les cultures sur brûlis. C'est une des conséquences, n'importe quelle agriculture, ça a des conséquences sur la forêt, tout ça. Et les problèmes de logement, quand vous êtes nombreux, il se pose une personne qui a une maison de 4-5 chambres, il y a 40 enfants, 40 personnes, vous devez obliger à être on parle des Salomon, les gens qui doivent vivre dans les salons, mais or ce n'est pas normal, d'où il faut chercher des logements. Alors en cherchant des logements, il y a un problème de crise de logements. Et puis quand il y a diminution de l'espace, quand il y a beaucoup de gens, on doit faire des maisons, puisque les maisons, on construit des maisons, le polygone augmente que sur les forêts, sur la nature, on diminue les espaces de l'agriculture et je parlais de la surpâturage. Oui. Ici, il s'agit de la surpâturage, pas des hommes. Il surpâturage de la population. Et quand quelqu'un a 10 vaches, 50 vaches, c'est 50 vaches, mais lui n'a que 10 hectares. Dans les 50 vaches, vont manger, vont brouter ces 10 hectares. Ça veut dire quoi? Ils vont finir à quelque temps les aliments, les feuilles, et ils doivent, là où il y avait les feuilles, il n'y aura que des sable. En fait, les animaux vont manger quoi?
Voilà. Parce qu'on va poursuivre. Vous avez plein de choses à dire par rapport à ça.
Alors,
on va poursuivre, professeur. S'il vous plaît, il y a des auditeurs qui sont en ligne autrement. Ils vont s'impatienter. On va les accueillir. Et puis, on va poursuivre avec vous sur la troisième question d'Omar Kigalo qui a parlé de notre tort, un sociologue qui a dit que la pauvreté, c'est vrai. On va
revenir
sur ça tout à fait. Mais il est temps pour nous d'accorder d'abord la parole à Jimmy Mulongo qui nous appelle de Kalembe au Katanga. Bonjour, Jimmy.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue en passant l'intervenant.
Non, vous écoutez, Jimmy, oui.
Je suis très ravi de suivre ce débat qui est vraiment d'actualité. Moi, je voudrais réagir par rapport à la réalité de Baleine. Aujourd'hui, nous assistons vraiment une explosion démographique au point que la capacité de contenir la population commence à poser problème. Il y a problème d'infrastructure et puis avec la nouvelle décentralisation aujourd'hui, il y a des gens qui avaient des lopins de terre qui sont demandés de quitter et aller plus loin. Alors ça pose vraiment un problème sérieux. Je ne sais pas si l'intervenant peut avoir un modèle à donner aux autorités étatiques afin que l'harmonie puisse un peu regagner le terrain.
Voilà. Merci Jimmy Moulongo depuis Kalemie au Katanga et on va rester dans la même province. Mais on change, on change de cité. On sort de la cité des Manono pour retrouver Georges Moukinda. Bonjour Georges.
Bonjour Monsieur Marcel Mbombalakeba, bonjour aussi à notre invité. Alors j'aimerais lui demander si ce qu'il fait proposer comme solution, par exemple, c'est pour nous qui sommes dans la cité de Manono, il y a l'exode rural. Alors c'est surtout ici chez nous, les gens préparent avec le bois du chauffe, avec du charbon. Maintenant cela occasionne surtout la déforestation. Alors ce que j'aimerais demander à l'invité, qu'est-ce qu'il peut proposer pour mettre fin à cela pour nous, par exemple, si on parle d'électricité ici chez nous. Voilà ce que je vais faire.
Merci Georges Moukinda depuis Manono Katanga. Alors professeur, on vient, professeur s'achemine petit à petit vers la fin de
oui,
cette partie.
Oui, mais c'est ça.
Voilà, professeur, si vous voulez d'abord bien répondre à la dernière question de Marc Igalo qui a dit que la poussée démographique, la croissance démographique dans les pays en voie de développement, c'est lié simplement à la pauvreté.
Oui, mais la croissance démographique n'est pas simplement lié à la pauvreté. La Chine est parmi les pays les plus développés. Et il est vrai. Il y a une corrélation entre l'augmentation de la population et la pauvreté. Parce que plus la population augmente, si vous n'avez pas de moyens, vous vivez dans la pauvreté. Et quand les gens vivent dans la pauvreté, ils vont faire l'air pousser ou ils vont agir, ils vont faire la pression sur les écosystèmes, sur l'environnement. Et ce sont des écoles. C'est comme celui-là qui a dit la distraction dans un pays sous-développé, c'est d'avoir les enfants. C'est pas ça la distraction. Quand il n'y a pas de télévision, tu peux lire. S'il n'y a pas de télévision, tu peux faire le sport. C'est un problème de la mentalité. Les gens croient que la distraction égale la télévision. Mais non. Mais avant, il n'y avait pas de télévision. Mais les gens faisaient la distraction. Tu peux faire la marche. Ok? Tu peux parler de légendes avec tes enfants. Donc, les problèmes, c'est pas celui-là. C'est le problème de prise de conscience. Monsieur Félix parle de la politique nationale.
Pour cela, c'est important d'insister parce qu'il y a Félix qui a appelé de Kalemie. Également Jimmy.
J'entre dans sa question.
Tout à fait. J'insiste simplement parce que Jimmy qui a appelé de Kalemie a évoqué également le même problème. Oui. Donc, d'après eux, il y a une forte explosion démographique du côté des Kalemie. Ils ont même posé la question de savoir si vous avez un modèle à proposer ou bien qu'est-ce qu'on peut avoir comme politique nationale.
J'en arrive.
Tout à fait.
J'en
exactement.
Arrive.
Oui.
Il parle de la politique nationale. Le pays a une politique. Une politique nationale. Parce que dans le pays, nous avons vu qu'il y a le PNMLS. Il y a la naissance désirable. Il faut avoir certaines naissances désirables. Mais quand vous trouvez des jeunes enfants qui sont grosses, qui doivent avoir les enfants sans utilisation de, sans suivre la naissance désirable. Mais ça, c'est, la loi existe. Le pays existe. Mais l'applicabilité, c'est aussi un autre problème. Et il parle des problèmes sur la cellule. Y a-t-il une cellule qui gère les entrées, les sorties des gens dans le pays? Oui. Au pays, nous avons la Direction Générale des Migrations, DGM. Tout le monde le sait. Mais il peut y avoir, le pays a la structure qui est DGM. Mais il peut y avoir, par les hommes, les agents de DGM, par exemple, ça, ils peuvent déraper. Mais néanmoins, c'est pas le pays. Le pays a mis les structures en place. Et ceux qui peuvent déraper, c'est pas tout le monde, c'est quelques-uns. Mais alors, il est possible que par partout dans les pays, compte tenu de la population et de la crise, qu'on ne se trouve pas beaucoup de gens, les agents de l'État. C'est pourquoi les ONG peuvent relayer. Les ONG ne peuvent pas remplacer la structure gouvernementale. Direction générale des migrations existe, c'est sans son rôle. Si la direction générale des migrations ne peut pas faire ça, nous avons le ministère de l'Intérieur. C'est ça leur rôle. Ce sont eux qui doivent s'en occuper. Mais le problème, c'est pas la corrélation entre la population qui augmente et les infrastructures à Calémie.
C'est pas seulement Calémie, c'est partout, hein.
Oui, c'est partout,
à travers le monde.
Et surtout, avec la nouvelle loi de la décentralisation, j'ai dit, dans notre pays, on a toujours avancé des aspects, des constructions ou des normes, sans voir les études d'impact, les conséquences qui peuvent arriver. Il est normal. Quelle solution qu'il peut faire? Il est d'abord anormal que les gens commencent à prendre des lopins de terre des gens. Alors, il y a aussi une culture des Congolais. Ils disent, c'est moi l'opé de terre, mais quand vous lui demandez, est-ce que vous avez un document de cadastre, ils n'en ont pas, des affaires foncières. Est-ce que vous avez de l'opé parce que c'était le lieu où ton père ou ta mère ou bien tes grands aïeux existaient là-bas, ou bien c'est l'opé de terre parce que la loi te donne. Et nous savons que depuis la loi Bakajika, la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Pour se prévaloir du sol, il faut que vous puissiez, il vous faut avoir les documents des cadastres. Si vous n'en avez pas des affaires foncières, si vous n'en avez pas, ce n'est pas votre terre, c'est la terre de l'État. Alors, les gens dans les villages, les gens partout où vous êtes, prenez cette culture d'aller aux affaires foncières, conservez votre terrain avec les documents des affaires foncières. Si vous n'en avez pas, c'est pas votre terrain, c'est le terrain de l'État. L'État a le droit de faire quoi ce qu'il veut.
Alors, professeur, à la question de...
Comment maintenant arriver à donner la solution, oui. Compte tenu de la petitesse de l'espace, dans les pays développés, on construit un hôtel. Ça ne sert à rien de s'étendre en surface. On peut construire en étage, on peut aller faire des buildings, on peut construire beaucoup de maisons qui peuvent en étage, qui peuvent abriter les gens, même les bureaux de l'État. Et puis le gouvernement, les ministères, avant d'envoyer les gens, avant d'envoyer les services, ils doivent mettre des infrastructures et surtout de ne pas empiéter sur le terrain d'autrui.
Alors rapidement, qu'est-ce que vous dites à Georges Moukinda qui a appelé de Manono par rapport à la déforestation liée à la poussée démographique? Rapidement.
Déforestation existera toujours en République démocratique du Congo si on ne met pas les énergies renouvelables en marge. Parce que les gens utiliseront les bois de chauffage, les charbons de bois. Que faire? Et à Manono, il y a le solaire, électrification par rayon solaire. À Manono, il y a des cours d'eau, les microcentrales. C'est très important à utiliser pour protéger pour le moment la déforestation. Les gens peuvent crier, ils vont crier, c'est pas le problème. Mettez-vous en association, achetez les panneaux solaires, mettez-vous les opérateurs économiques de Manono ou de partout dans ces pays. Les microcentrales n'écoutent pas les yeux de la tête. Mettez ça, jetez dans le cours d'eau. Vous avez l'électrification, vous vous industrialisez. Si le gouvernement ne fait rien, vous faites quelque chose.
Nicolas Choukou, on va s'arrêter par là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour parler par rapport à ce sujet. Comment gérer les effets de la croissance démographique sur l'environnement? Nous rappelons que vous êtes expert en environnement, vous êtes professeur au Canada. En tout cas, merci d'avoir profité de votre séjour à Kinshasa pour passer sur nos antennes. Merci beaucoup, professeur.
Merci beaucoup.